La mort du loup. Langer était un des plus riches pasteurs de rennes du Finnmark. Il possédait un troupeau de 4000 bêtes que gardaient une douzaine de domestiques et plus de 50 chiens. Le plus robuste de ses valets se faisait appeler Ya. Ya n'était pas Lapon. Il était venu autrefois en Norvège à la suite d'un barnum qui rendait à leur neige une collection de Norlandais exhibée à travers les capitales de l'Europe. Ya était français. 40 ans, une haute stature, un visage dur masqué de poils poussés en toute liberté, un regard brillant sous les sourcils comme une couleuvre sous un fourré de roses. Ya était fort admiré des Lapons. Il le trouvait laid, mais comme il n'avait pas la bouche immense, le nez en bouton et les petits yeux de souris qui composaient les plus beaux avantages physiques de ses collègues, ces derniers étaient tout étonnés de le voir caresser des rennes et conduire un traîneau tout aussi bien qu'un fils du Nord. Ya parlait peu. Ya n'aimait pas les bavards. Ya détestait la vie sous la hutte en compagnie de femmes coupant des peaux de rennes. Il travaillait violemment. Quand il dormait, il semblait dormir avec rage. Autour de l'âtre, le soir, quand la fumée montait vers le centre de la hutte, dont le toit de peau laissait voir les étoiles, Ya proférait parfois des mots de colère en une langue inconnue. Alors le maître, Lajé, qui savait le passé de Ya, cherchait à apaiser l'étranger. « Ya, mon ami, tu es ici chez toi, tu le sais bien. » « Ne songe plus aux méchants, Ya !» Moranger, la maîtresse de l'Alger, qui était une femme pieuse, ne manquait pas d'ajouter « Demande à Dieu d'oublier, mon garçon !» Ya cherchait l'oubli dans la fréquentation des bouteilles d'eau de vie. À l'aube, le fermier l'avait trouvé bien souvent couché dans la neige au seuil de la tente. L'ivresse l'avait terrassé, là, et livré au froid, qui, comme un lutin malicieux, s'était amusé à coller les cheveux du pauvre homme à sa demi-douzaine de glaçons. Chaque fois, les femmes, avec leurs ciseaux, avaient délivré Ya, qui, tout honteux et en grondant, avait promis de ne plus s'exposer au ridicule. Mais les cheveux du colosse repoussaient vite, et les soucis revenus, Ya buvait, buvait. Malgré ses défauts, rachetés par la bonté et la sollicitude qu'il témoignait aux faibles, Ya était l'ami plutôt que le valet de l'Alger. En récompense de services rendus, le maître, selon la coutume lapone, lui avait donné, dès la première année de leur rencontre, 4 rennes femelles qui, bon an mal an, lui avaient mis bas nombre de petits. Aussi, Ya possédait-il un véritable troupeau de confondu avec le troupeau du termier, mais dont les bêtes étaient marquées sur l'oreille de caractères inconnus aux Lapons. Bien plus, Ya possédait un sac de cuir tout gonflé de pièces blanches qu'il avait enfoui sous un rocher à silhouette humaine, pierre vénérée par les indigènes, aimant le dieu des chrétiens, mais redoutant les dieux inertes de la ville liée aux religions lapones. Le fermier et son troupeau campaient sur les monts Atakatwas à quelques heures de Karlsjok. Chassés des bois par la faim, les loups se montraient cet hiver plus audacieux que de coutume. Ils erraient par bandes sur champs de neige escorté ou commandé par un fauve de grande taille, habillé de poils gris comme les loups de Sibérie. Malgré les chiens, malgré les gardiens, les bêtes de l'Alger avaient fort à souffrir du voisinage de ces carnassiers. Ia, dépouillé par le coquin gris d'un de ses rennes de course, le mieux dressé, jura de se venger, regrettant que la couche de neige ne fût pas assez épaisse pour lui permettre de chasser ses patins longs de 6 pieds. Sur ses skis, Ia avançait le plus rapide des chiens de la ferme. Un jour, sur la glace d'un lac voisin, il dressait un jeune renne à obéir au commandement de la guide, quand une neige, d'abord fine comme la farine, sortant d'une buderie, plus épaisse comme des plumes de jolies notes, se mit à tomber en telle abondance qu'il laissa là ses exercices de dressage. Et comme elle arrivait sous la hutte, l'Alger en Laponie, les hommes seuls cultivent l'art culinaire, l'Alger retirait du foyer une marmite pleine de viande. « Assieds-toi et mange, » dit le fermier. « Je pense que les loups ne vont pas tarder à faire de nouvelles victimes. Alors, dès que la neige tombe, on les voit apparaître. »« J'espère bien, » dit Ia. En ce moment, la jeune fille qui gardait les rênes se mit à crier au loin. « Gimple Boulsin, le loup est derrière les rênes !» Bientôt, tous les domestiques couraient vers la hutte, hurlant tous à la fois « Gripel Boulsin, Gripel Boulsin !» À ce cri redouté, on a vu des lapons quitter l'église et ce prêtre bénissant leur mariage pour donner la chasse aux ravisseurs. L'Alger laissa tomber la cuillère de bois dont il était armé pour s'emparer d'une hache. Ia haussa, chassa rapidement ses skis, pendant que les chiens couraient, sus aux fauves, escortés de domestiques. La servante qui avait donné l'alerte raconta, tout essoufflé, « J'ai voulu les effrayer, les brigands, quand je les ai vus rôder autour du troupeau. » Mais j'ai dû reculer devant leur croc de coquin-ouïe qui marchait en tête des assaillants. Le coquin gris ? Interrogea le Français. Oui, je l'ai vu, et de bien près. Oh, il a les dents longues comme ton couteau, Ia. Nous les mesurons, assura sans forfanterie le colosse. Il jeta son fusil sur son épaule et suspendit à son cou une sacoche pleine de langues fumées, décidé à poursuivre le fauve aussi longtemps qu'il le faudrait pour venger la mort de son renne favori. Chaussés de leurs patins, Ia et l'Alger se dirigèrent vers le troupeau et apprirent des domestiques que les loups avait réussi à chasser vers le nord une 50aine de bêtes. Ils se lancèrent à la poursuite des fauves, dans l'espoir de ramener à la ferme les rennes épouvantées. Ia, excité par l'envie d'une rencontre avec le coquin gris, se laissa glisser sur le flanc d'une colline, soutenu par son skissard. D'un long bâton pourvu à l'extrémité d'un disque horizontal qui empêche d'enfoncer dans la neige. Rouleau, Ia, excité par l'envie d'une rencontre avec le coquin gris, se laissa glisser sur le flanc d'une colline, soutenu par un skistar, long bâton pourvu à l'extrémité d'un disque horizontal qui l'empêche d'enfoncer dans la neige. Et dans sa course enragée, il évitait les fûts blancs des rouleaux par des bonds rapides exécutés à l'aide de la longue tige de sapin, roulant entre ses doigts comme une simple canne de botaniste. Un peu ému de la hardiesse de son compagnon, l'Alger, qui le suivait à distance, s'aperçut que Yann s'arrêtait et se penchait sur le sol. Il rejoignit à la hâte et le trouva près d'un renne expirant. « Regarde, maître, regarde, le brigand vient d'entendre dégorger l'un de mes rennes. Ah, je jure que ses oreilles vont faire la connaissance de mon couteau, elles aussi. » Et d'une formidable poussée de son skistar, il fit presque l'ascension d'un tertre qui lui cachait le ravisseur. Quand son grand corps se silhouetta en noir sur le sommet du monticule, il poussa un juron et se laissa choir dans la plaine où il venait d'apercevoir le grand loup couché sur le ventre, tenant le sang chaud d'une nouvelle victime. Lourd de mangeaille, le fauve regarda venir l'homme, les lèvres retroussées, le mufle tendu, hésitant entre le combat et la fuite. La stature de l'IA, la rapidité de sa course, son skistar menaçant, en imposèrent cependant à la bête qui détala en bon coup précipité et court, poursuivi par le Français qui, dans sa folie de vengeance, oubliait de lui trouer la peau d'un coup de fusil. Le coquin gris cherchait à s'alléger des quartiers de Rennes, rendant sa retraite plus difficile. Et à chaque éternuement de la bête, à chaque effort d'expulsion, Ya ricanait derrière lui. « Trop tard, mon vieux, trop tard. Tu me rendrais toute la viande que tu as volée depuis que ta mère, la femme du diable, t'a mis au monde. Tu n'échapperais pas à mon couteau. » L'esqui du Français sifflait sur la neige et le loup, les poils hérissés, s'allongeait sur le sol comme un lévrier prêt à saisir son un lièvre. Le skistar de Yann n'était plus qu'à 10 mètres du fauve quand la plaine succéda au monticule hérissé de rochers. En quelques foulées puissantes, la bête reprit avantage sur son ennemi qui, furieux, faillit dans sa précipitation donner de la tête contre un dieu scandinave, un bloc de pierre dont la tête à peine ébauchée sembla se moquer de lui. Et quand il arriva au sommet, Yann aperçut le loup bondissant sur une neige épaisse où il enfonçait comme dans de l'ouate. Il but une gorgée d'eau de vie à la gourde qu'il ne quittait jamais et se lança sur la pente en poussant un formidable hurrah qui eut pour effet immédiat d'augmenter les efforts du fauve. Yann gagnait de vitesse son ennemi. Yann, les yeux brillants, jouissait déjà de la joie qu'il allait éprouver en enfonçant son couteau dans les chairs résistantes de la bête, quand le coquin gris parvint en 2 ou 3 coups de rein à gagner un lac dont la surface unie était bordée d'une ceinture de rochers. Oh, nous serons très bien là pour vider notre querelle, pensa le colosse. 5 minutes après, Yann levait son bâton sur la nuque du fauve et Yann tombait à la renverse. Jugeant tout de suite impossible, le loup venait de s'arrêter, montrant les crocs. Surpris, ne pouvant éviter l'abordage, Yann avait voulu brusquement s'arrêter et avait roulé sur le sol. Quand il essaya de se relever, Yann sentit les crocs du fauve plantés dans sa double peau de renne dont il était revêtu. Couché sur le ventre, et sachant qu'il s'exposait aux morsures que les parties les plus charnues de son individu Le colosse, sans trop de précipitation, saisit le couteau pendu à sa ceinture et le rentra, se releva à temps pour éviter une nouvelle attaque de l'ennemi. Et sous son poing brusquement tendu, l'arme s'enfonça jusqu'au manche dans l'épaule de la bête qui s'enfuit hurlant de douleur. Et la chasse recommença sur la plaine sauvage et glacée. Épuisé par sa blessure, le loup faiblissait. Ia, tout en sueur, jeta son fusil sur la neige pour augmenter la vitesse de sa course. Et dans sa rage de vivre, le fauve, menacé par le sifflement des skis qui se rapprochaient de plus en plus, accéléra sa fuite. Alors Ia se dévêtit de sa peau de renne, lança au loin son bonnet et, cheveux au vent, le poing toujours armé de son couteau ensanglanté, se précipita avec furie sur son ennemi. Et d'un coup de skistar, il l'abattit dans la neige. Comme le fauve retroussait entre ses babines souillées d'écume pour mordre avant de mourir, Ia, campé sur le ski, Ia jouissait de son triomphe et se mit à faire le procès du coquin gris. « T'as les reins cassés, coquin. Ça t'apprendra à me mordre par derrière. Oh, tu peux ouvrir ta gueule. Ta vilaine langue ne léchera plus le sang de mes reines. C'est mon couteau qui va se régaler maintenant. » Et dans la prunelle dilatée du loup, le brave Ia crut deviner sans doute un reproche, formulé en la mimique que comprennent tous les êtres, car il ajouta « Tu m'as volé le meilleur de mes bêtes, brigand, car tu es un voleur, un assassin, un fils du diable. » Et Ia accompagnait chaque injure de coups de couteau qui firent passer le coquin gris de vie à trépas. Quand, le lendemain matin, Ia fit son entrée sous la hutte, il portait sur ses épaules la fourrure dégouttante de sang de son ennemi. Et il dit à la servante qui avait crié « Guipé, là, ce bonjour, le loup est derrière les rennes. Tu as menti, femme. Il n'avait pas des dents aussi longues que mon couteau. »